Vous écoutez RTL. RTL Soir.
On refait le monde. Marc-Olivier Fogiel.
19h17 sur RTL, l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre. On refait le monde ce soir avec Clémentine Autain, directrice du trimestriel Regard. Bonsoir Clémentine.
Bonsoir.
Avec le directeur adjoint de la rédaction du Figaro Magazine. Bonsoir Jean-Christophe Buisson.
Bonsoir.
Comme tous les lundis avec Nicolas Domenech. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Et Alain Duhamel nous a donc rejoint. Rebonsoir Alain.
Rebonsoir.
Quand Christiane Taubira murmure à l'oreille de la jeunesse, certaines autres doivent siffler. L'ex-garde des Sceaux publie aujourd'hui un livre surprise dans lequel elle développe son opposition à la déchéance de la nationalité, symbole négatif et inefficace. Christiane Taubira qui salue malgré tout l'action de François Hollande après les attentats de novembre. Alors, à quoi joue-t-elle ? Restera-t-elle loyale ou pas sur les réseaux sociaux, Benoît ?
Alors déjà, Bruno, jeudi de Paris Match l'a lu, son verdict en 140 caractères. Taubira publie un livre de 93 pages où se mêlent verbiage, lyrisme et des citations d'auteurs interminables du mauvais BHL. Voilà, c'est fait. Pour Eric, le livre de Taubira révèle surtout que les ministres équipent des bouquins au lieu de bosser et les font imprimer à l'étranger. Rachida Dati en retweet une couche. Le livre de Taubira prouve qu'il n'y avait plus de ministre de la Justice depuis plusieurs mois. Aucune politique pénale. Vous détestez ceux qui sont plus intelligents, plus cultivés que vous, bande d'aigris, rétorque Ange. Bizarre, tous les candidats à la présidentielle sortent leur livre actuellement. Serait-elle donc candidate, soupçonne Philippe. Luc, lui, découvre dans Le Monde le planning de la sortie. Livre terminé le 10 janvier, transmis à Hollande le 22, démission le 27. Parfait planning du côté marketing, applaudit Joanne. Quoi, elle écrivait contre le gouvernement dont elle faisait partie, s'étrangle Fabio. Pierre conclut, n'empêche, Christiane Taubira a écrit un livre en moins de temps qu'il n'en faut à Nadine Morano pour comprendre comment fonctionne un stylo.
Jean-Christophe Buisson, ça vous a pas fait rire le dernier tweet, mais bon, c'est pas grave.
Je n'aime pas qu'on dise du mal des femmes.
Ah oui. C'est vrai que le calendrier, en tout cas, est assez particulier de la sortie de ce livre au moment où il a été écrit, envoyé au président de la République. Déjà, la forme, c'est assez particulier.
Oui, si vous permettez, comme j'ai eu la chance de le lire, je vais faire comme pour Nicolas Sarkozy, j'ai envie de parler de ce qu'il y a dedans.
Allez-y.
Plutôt que des conditions qui sont évidemment très politiques. Et ce qu'il y a dedans est très agréablement surpris. Quelques exceptions près, c'est-à-dire qu'on commence le livre, c'est toujours effectivement très lyrique, ampoulé, même puéril parfois dans l'écriture. On s'attend au pire, et puis petit à petit, je trouve qu'elle installe son écriture, ses références, qui ne sont pas des longues citations, contrairement à ce que dit ce tweetos.
Ça sent qu'elle est sortie du gouvernement, hein, pour que vous l'appréciez autant d'un coup.
C'est un livre qui est incapable d'écrire Flore Pellerin, par exemple, alors qu'elle est ministre de la Culture, je pense. Il y a des affaîtries, il y a des naïvetés. La fin du livre, c'est bêtement contre la droite, mais c'est même puéril. Mais à l'intérieur, il y a une réflexion sur le terrorisme, sur ce qu'est la France, avec quand même, pas dans la bouche, mais du coup sous le stylo de Christiane Taubira, cette référence à Clovis. Pardon, mais de la part de Christiane Taubira, expliquer que la nation française date de Clovis, moi je suis tombé de ma chaise. Alors après, elle passe directement à Valmy, ça m'a un peu ennuyé. Elle saute beaucoup de choses, notamment sous la monarchie capétienne. Mais du coup, c'est un livre qui me semblait apaisé, pas du tout agressif. Alors évidemment, comme pour Sarkozy, on va en retenir certaines choses. Par exemple, les tacles par derrière sur Manuel Valls, même s'il n'est pas cité, les hommages assez mesurés à François Hollande. Mais encore une fois, elle ne fait pas le bilan de son ministère. Elle a bien raison, parce qu'il est catastrophique. Mais en l'occurrence, il y a quelque chose. C'est un véritable livre. Et moi, je trouve toujours sympathique qu'un ministre se serve du livre pour exprimer le fond de sa pensée, fût-elle contraire à la mienne.
Vous l'avez lu également, oui. Alain Duhamel. Vous en retenez les mêmes passages.
Moi, je ne peux pas dire que j'ai été surpris, parce que j'avais déjà lu un ou deux de ses livres dans le temps. Donc, je connaissais son style. Je savais qu'elle n'est pas de nature très ascétique, hein, et que son idée n'est pas d'être la plus concise possible. Bon. Mais alors, d'abord, le procès de dire comment est-ce qu'on peut écrire un livre quand on est ministre, quand on lit ce livre, je veux dire, un bon week-end, ça suffit pour le faire.
Hein. Non, mais c'est pas en termes de compatibilité d'emploi du temps, c'est le fait de dénoncer.
Si, il y avait un Twitter qui disait elle aurait dû s'occuper de son ministère au lieu d'écouter son livre, non. On peut très bien écrire ça pendant son week-end. Bon. Ensuite, c'est une femme cultivée, ce qui est toujours agréable. Et moi, c'est ce qui me frappe. Elle a vraiment un tempérament original. Alors, son tempérament, il est expressionniste. Elle est vraiment très, 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 très lyrique. Elle est assez répétitive. En même temps, elle a un vocabulaire étendu. j'ai appris un mot.
C'est dire.
Bah, c'est, en tout cas, pour moi, ça m'a frappé. D'autant plus que j'ai été vérifié pour savoir ce que ça voulait dire. Médroport, c'est une sorte de fleur minérale.
D'accord.
Bon. Qu'elle compare à la voix de Nina Simone.
Ah, bah alors.
Bon.
Très bien.
Mais. C'est, je veux dire, il y a quelque chose. Il y a quelque chose dans ce. Il y a une flamme, il y a un tempérament. Et ça n'est pas. Alors, ça, c'est quand même. Je vais faire un vrai compliment. Je ne lui ai pas fait que des compliments quand elle était ministre, vous vous rappelez. Mm-hmm. Mais je ne lui ai pas fait non plus que des critiques. Mm-hmm. Mais c'est un livre qui n'est jamais mesquin. Alors ça, de la part de quelqu'un qui vient de quitter le gouvernement, un livre qui n'est pas mesquin, je n'en connais pas beaucoup. Je connais beaucoup de livres mesquins, je peux citer beaucoup d'auteurs, de gauche ou de droite, mmh. après qu'ils aient quitté le gouvernement. Elle n'est pas mesquine. Et alors, en ce qui concerne Hollande, elle est même, je dirais pas affectueuse, mais enfin, quand on voit la fin du livre est franchement positive. Mmh.
Que de bouquets de fleurs, que de fleurs, Alain Duhamel. Elle n'est pas morte, hein, pourtant. Hein. C'était quelqu'un de vivant. Mais...
Oh, de toute façon, je n'aime pas beaucoup couvrir de fleurs ceux qui viennent de mourir.
Oui, mais en tout cas, c'est impressionnant. C'est impressionnant aussi que le Figaro lui accorde le label bleu, blanc, rouge, quand on pense à toute cette droite qui lui a refusé d'être tenue pour d'être française, tout simplement. Pas le Figaro, non. Je veux dire, toute une droite qui a dit qu'elle n'était pas d'ici, parce qu'elle seule aurait été d'ailleurs. Non, elle a cette langue française sublime, par moments. Mais ce n'est pas un livre. Moi, je ne le considère pas comme un ouvrage. C'est pour ça même que je trouve stupide de dire qu'elle a pris sur son temps ministériel pour l'écrire. Parce que c'est vraiment, c'est un opuscule, quoi.
C'est un article, quoi.
C'est un long article avec des passages dépassés.
C'est une
avec
lettre
des moments,
de séparation.
Oui, avec des moments de fatras un peu lourdingues et puis des moments, des belles envolées, des choses lumineuses. Je trouve que l'étalage de la culture, moi, c'est pas mon truc. Donc les citations, ces citations. Mais il y a quelque chose...
Déjà utilisé.
Oui, beaucoup, beaucoup.
Mais il y a au-delà du style et tout ça, mais quand même, elle a écrit ça quand elle était quand même ministre et qu'elle sachait qu'elle savait très bien quand il allait sortir qu'il n'allait plus l'être.
Parce que moi, je le lis comme un livre de maturation, de clarification. Elle hésite encore, et d'ailleurs, la dernière page de couverture dit garde des Sceaux, ministre de la Justice, Christiane Taubira.
C'est peut-être ça qui est un peu bizarre, non ? Quand on écrit ça, on ne peut plus rester ministre.
Vous faites un cheminement dans l'écriture. L'écriture, c'est un cheminement, c'est une pensée. C'est une pensée qui avance. Vous ne dites pas, ça y est, j'ai rompu. C'est pas comme ça que
commande. La formelle du gouvernement, elle tient pas elle tant tient de place pas... que ça.
Non, mais ce que je trouve.
Non, mais de la déchéance de la nationalité.
C'est le plus intéressant. Pardon, ce n'est pas le plus. Je finis. Non, c'est le plus intéressant, c'est quand même le passage où elle explique, au fond, contre ce qu'avait déclaré Manuel Valls, que expliquer c'était justifié. Mmh. Elle dit il faut, comme avait dit Emmanuel Macron, mais de manière beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus intéressante, elle dit qu'il faut offrir un espace spirituel. Je veux dire que le terrorisme se nourrit de ce ciel qui nous tombe sur la tête. Je veux dire, cette façon de ne pas prendre en compte, au fond, un certain nombre
Macron
de situations.
Macron l'avait assez bien dit.
Oui, mais là, je trouve ça encore mieux.
Elle le dit, d'ailleurs.
Clémentine. Bien. Alors, je ne me permettrai pas de juger de la qualité littéraire de l'ouvrage, ne l'ayant pas lu. En revanche, je voudrais quand même rappeler quel est le fond de ce livre, parce que jusqu'ici, ça n'a pas du tout été mentionné. C'est un livre qui vise à s'inquiéter des dérives sécuritaires de l'état d'urgence permanent et à dénoncer une mesure phare qui est la déchéance de nationalité, raison pour laquelle elle a quitté le gouvernement. Donc de ce point de vue, c'est un livre qui fait œuvre de pédagogie utile dans un contexte où malheureusement cette proposition est portée par un gouvernement qui se réclame de la gauche et il semble qu'elle fasse un plaidoyer contre cela, et je trouve que cette œuvre de pédagogie à destination de la jeunesse, le titre est quand même un joli titre, Murmure à la jeunesse. Pour autant, je ne comprends pas très bien comment elle arrive à dissocier cette critique du positionnement par rapport au gouvernement, à François Hollande, à Manuel Valls. Parce que partout, nous lisons qu'elle a de l'affection, qu'elle reste loyale vis-à-vis de François Hollande.
C'est un fait.
Voilà. Donc on comprend. Moi, je ne comprends pas.
C'est triste. Elle reste loyale, franchement, pas de chance.
Mais je crois qu'elle n'emploie pas le terme dérive sécuritaire, d'ailleurs. Elle dit qu'il faut autre chose, mais elle ne dit pas, elle ne qualifie pas comme cela.
Peut-être, je n'ai pas lu le détail. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'elle part sur un désaccord politique dont on ne mesure pas à cette heure tout à fait quelle est l'ampleur du désaccord, puisqu'elle y est restée quand même plus de 3 ans. Et moi, j'avoue que je ne comprends pas encore très bien, puisque c'était votre question, Marc-Olivier Fogiel, ce qu'elle fabrique et ce qu'elle va fabriquer dans les mois et années qui viennent. Ce qu'elle a fabriqué pendant 3 ans, le bilan commence à être sur la table et il n'est pas que positif, loin s'en faut. Et surtout, où va-t-elle ? C'est-à-dire, est-elle cet espoir dans lequel un certain nombre de frondeurs ou d'autres, voilà, qu'elle incarnerait cet espoir pour reconstruire une gauche dans ce pays, ou au contraire, est-ce qu'elle restera une forme d'icône hors sol politiquement, si j'ose dire.
À votre avis, Alain Diamel.
Moi, après avoir lu son livre et après avoir lu celui de Cécile Duflot, je dirais elles vont dans des directions opposées. Cécile Duflot est narcissique, ambitieuse, peut-être arriviste, ne parle que d'elle et considère qu'elle a un destin présidentiel parce que les sondages lui donnent 2%. Christiane Taubira, franchement, c'est un livre, je ne partage pas tout ce qu'elle écrit, d'ailleurs je ne partage pas tout ce qu'elle pense, mais d'abord c'est un livre généreux. C'est rare en politique les gens qui écrivent des livres généreux visiblement, pour elle...
Vous n'allez pas nous dire qu'elle n'est pas narcissique, Alain Duhamel. Ah non, pas vous, quoi.
Est-ce que je vous ai dit le contraire?
Ben oui, à l'instant, Cécile Duflot était narcissique, mais pas elle.
Non, ben par rapport à Cécile Duflot,
Sur l'échelle Duflot.
Par rapport à Cécile Duflot, c'est une carmélite.
Allez, pour terminer.
À propos du Flot, en deux mots, pour ne pas priver les auditeurs de RTL du style de Christiane Taubira, est-ce que vous m'autorisez à lire une phrase?
Allez-y.
Oui, au pays de Simone Veil, refusons de voguer à la surface des choses. Il faut fendre les flots et s'aventurer dans les eaux tumultueuses jusqu'au cœur du tourbillon. Il faut percer, mesurer, atteindre l'œil du cyclone pour en connaître l'intensité. Il faut prospecter les contradictions, les faire rendre gorge, débusquer les vides qui servent de grotte à ces déviances sanguinaires.
Est-ce qu'on peut dire qu'une des raisons de la popularité quand même de Christiane Taubira, c'est ce verbe? Alors là, c'est une citation, mais sa capacité à repérer...
Empoulé quand même, vous en conviendrez, non?
Oui, c'est empoulé, mais je pense que dans sa popularité, il y a aussi ce ton, ce verbe, cette culture qui fait tant défaut aujourd'hui au personnel, ce qu'on appelle au personnel.
Elle n'est pas dans une stratégie présidentielle.
Non, je suis d'accord.
Dans une stratégie de conscience.
C'est bien pour ça que je disais que c'est
spirituelle. Elle est dans la spiritualité, elle n'est pas dans la démarche politicienne.
Non, il me semble. Puis elle a lu Victor Hugo quand même.
Dans un instant, on parle de la grâce partielle.
On oublierait que c'est le gouvernement auquel elle a appartenu qui applique la mesure qu'elle dénonce tant.
De la grâce partielle de Jacqueline Sauvage.
On refait le monde dans RTL Soir.
Marc-Olivier Fauchière.
19h32, on refait le monde sur RTL avec Clémentine Autain, Alain Duhamel, Nicolas Demenac et Jean-Christophe Buisson. Libérable, mais pas encore libéré. François Hollande a donc accordé sa grâce partielle à Jacqueline Sauvage, cette femme condamnée à 10 ans de prison pour le meurtre de son mari. Après des années d'enfer conjugal, ses filles se félicitent d'une décision qui permettra à leur mère de présenter une demande de libération conditionnelle, puisque vous le savez, la grâce concerne sa période de sûreté. Alors, est-ce que vous vous réjouissez de ce compromis ou c'est un camouflet pour la justice sur les réseaux sociaux, Benoît ?
Bien, après l'immense élan de compassion en ligne, la pétition aux 436 000 signatures pour exiger sa grâce, on entend désormais de nombreux mécontents. Clébo a beau lancer au président « Fier de voir l'humanité en vous », Volta a salué une bonne solution, pleine d'humanité et de mesure. Jérémy s'étrangle « On peut se faire justice soi-même et court-circuiter la justice ». Elle a tout de même été condamnée 2 fois à 10 ans de prison par un jury populaire, souligne Alain. « Je préconise la séparation plutôt que l'assassinat, voilà un principe de civilisation trivial, mais bon à rappeler, renchérit Bug. Il y a tous ceux comme Jean qui sont tout simplement contre le droit de grâce présidentiel, vestige de la royauté divine, à abroger dans une démocratie républicaine, dit-il. Nicolas Dupont-Aignan estime au contraire que le droit de grâce gaulien met un peu d'humanité dans l'état de droit. Heureux que Jacqueline Sauvage puisse retrouver ses filles. Mais beaucoup comme Jackie parlent de démagogie, de populisme, de jury bafoué. La justice appréciera, grince-t-il. Joli geste, mais ça risque de décrédibiliser notre justice, concède Eric. Mathieu lui regrette cette grâce partielle, comme ils disent, c'est pas génial de toujours faire les choses à moitié. Honte, poursuit Julien, honte à ceux qui ne savent pas réfléchir au-delà de leurs émotions. L'avocat Régis de Castelnau, lui aussi, brocarde sur son site le culte des coupables innocents. Le dieu conclut avec une chanson de Boris Vian, vous savez, la Java des bombes atomiques. Elle se terminait ainsi, on était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia.
Alors, Nicolas Demenac, vous saluez la décision de François Hollande ou alors vous comprenez que les magistrats aient quelques états d'âme ce soir ?
Non, je comprends, j'approuve, j'applaudis la décision de François Hollande. J'étais de ceux qui, dès le début, ont été bouleversés par ce drame, plus qu'encore cette tragédie. Je trouvais ça terrible, le calvaire qu'avait vécu cette femme, cette famille, et qu'il était vraiment inhumain, qu'elle n'ait pas l'espoir de retrouver ses enfants, enfin, pour quelques années au moins, pour essayer de se reconstruire, revivre quelque chose. Et je trouve que j'ai oublié effectivement que François Hollande avait dit que jamais il ne prendrait de telles décisions. Il l'avait dit, moi président, effectivement, je respecterai l'indépendance de la justice. Mais voilà, on est dans une monarchie républicaine et puisque Dieu n'est pas d'ici, il faut de temps en temps que la miséricorde s'incarne ou soit permise par le président de la République, et tant mieux.
C'est quand ça vous arrange, ça.
C'est pas quand ça m'arrange, c'est quand au fond l'humanité l'exige, l'appel des humains qui ne trouvent pas dans la justice quelque chose de juste, eh bien au fond trouvent là de quoi vivre.
Oui, parce que c'est une grâce présidentielle qui est sous pression, pression d'une mobilisation qui est une mobilisation populaire. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'une grâce qui serait juste le fait du prince tout seul, déconnecté de la société. C'est une affaire qui a bouleversé parce qu'elle touche à un sujet qui arrive aujourd'hui à sortir du silence, qui concerne les violences faites aux femmes et les difficultés pour les femmes à parler, à porter plainte, à se défendre tout simplement. Donc moi, j'applaudis, je suis comme Nicolas, j'applaudis cette décision. Et en même temps, et je veux le dire, on est dans un contexte général où il faut faire un petit peu attention. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se faire justice soi-même. Et d'ailleurs, la condamnation reste intacte. Hein.
Absolument, elle reste intacte. Mais la question qui peut se poser, c'est aujourd'hui, est-ce que la légitime défense ne doit pas être élargie et qu'elle ne doit pas être simplement retenue au moment où ces femmes commettent...
La légitime défense différée.
Différée, voilà.
Puisse y avoir une discussion parlementaire sur cela. Moi, je ne suis pas juriste. Je dis juste qu'il faut faire attention, parce qu'il n'est pas question de se faire justice soi-même, c'est-à-dire de dire que, au fond, quand on a été victime de violence, on aurait le droit de tuer son bourreau. Bon. On ne se fait pas justice soi-même et on n'est pas pour la peine de mort en France. Et ça a été quand même une bataille très importante. Donc comment tenir le debout? Et de ce point de vue, je regrette que le président de la République n'ait pas dans le même temps fait des annonces concrètes pour lutter contre les violences faites aux femmes. Et je trouve que là, il aurait été dans un sens qui n'est pas tout à fait celui du climat général. Mmh.
De la démagogie, quoi.
Oui, peut-être, on peut dire ça comme ça, mais ce n'est pas de la démagogie, mais de l'émotion et des réponses sécuritaires, d'une certaine manière.
C'est exactement ce que vous reprochez à Nicolas Sarkozy quand il surréagissait avec un événement, un drame, une agression, je ne sais quoi.
Ce n'est pas complètement faux, si je peux me permettre.
Merci, Martin.
C'est vrai.
De surréagir, de vouloir faire une loi pour régler un problème qui était peut-être exceptionnel. C'est pour ça que je disais pardon, Nicolas, c'est pour ça que je disais quand ça vous arrange, c'est-à-dire que les promesses que ne tient pas François Hollande, il y en a certaines, bon, c'est pas grave. Alors celle-là, c'est pas grave. Moi, c'est ce qui m'agace dans cette histoire, c'est que c'est encore un reniement. Il ne faut pas annoncer qu'on est contre la grâce présidentielle si c'est, quelle que soit la raison, si c'est pour la pratiquer, l'exercer deux ans après.
Il le fera plus, Jean-Christophe. Il le fera plus.
À la Hollande, c'est-à-dire pas totalement. Là, je suis pas d'accord avec vous, Clémentine Autain. Tant qu'à faire jouer la grâce présidentielle, allons jusqu'au bout. C'est comme la déchéance de nationalité. Soit on l'a fait, soit on l'a fait pas, et on fait un truc à chaque fois entre les deux. Moi, la grâce présidentielle, je trouve que c'est une belle chose, c'est un héritage, peut-être parce que c'est un héritage de la monarchie, mais c'est cette grâce présidentielle qui a permis de réhabiliter Dreyfus, c'est cette grâce présidentielle qui a commué la peine de prison par De Gaulle du maréchal Pétain, la peine de mort en prison à vie, c'est cette grâce présidentielle qui a permis d'innocenter Gabriel Dominici. Il peut y avoir exceptionnellement, et encore une fois...
Et le capitaine Dreyfus, hein.
Oui, je l'ai cité.
Oui,
en premier, même.
Pardon.
Et il aurait même pu préciser que ses défenseurs, les plus engagés se sont terriblement divisés quand il y a eu grâce, en disant qu'il n'aurait pas dû accepter.
Absolument. Donc c'est pour ça que c'est... Et là, on ne parle pas de monarchie. Mmh, on parle de la Troisième République, ou de la Quatrième République, ou de la Cinquième République.
C'est une forme de monarchie. Oui. Enfin, franchement, si vous trouvez qu'on est complètement sorti de la monarchie...
Sur la grâce elle-même, Alain Duhamel, qu'un président puisse avoir ce droit de grâce, c'est dans la...
Écoutez, je vais vous dire très simplement. Je suis très content pour elle, pour ses filles, et je trouve que le fait qu'elle ait une chance, une possibilité en tout cas d'avoir une fin de vie normale après avoir eu une existence barbare, je trouve ça très bien et donc je m'en réjouis. Maintenant, sur le principe de la grâce, on est pour ou on est contre. Si on est pour, on l'applique. Si on est contre, on la suspend.
Et vous
moi, je ne suis pas très pour les stigmates monarchiques en règle générale.
D'accord.
En règle générale, mais en particulier, ils peuvent.
La preuve, c'est que je dis que je suis contre.
Voilà,
mais
donc c'est bien ce que je veux dire. Il faudrait quand même de temps en temps, être humain et puis considérer que quand on a dit des sottises avant d'être élu, eh bien, on peut considérer que si on a l'intelligence de revenir dessus, eh bien, dire bravo au lieu de dire tout le temps il est saut dans tous les cas de figure.
Mais je comprends en même temps la réaction de l'Union syndicale des magistrats. Qui dit et qui souligne le fait qu'il y avait eu deux procès parfaitement réguliers,
bien sûr,
que les membres des jurys, qui étaient des gens tout à fait respectables, avaient travaillé leur dossier, connaissaient bien les circonstances, sûrement mieux que ceux d'entre nous qui se sont exprimés, on n'a jamais vu, nous, les pièces du dossier. Mmh. Même si je ne discute évidemment pas le point que c'est évidemment elle la victime et son mari le coupable.
Vous voulez dire un mot, Nicolas, allez-y.
Bien, vous avez sûrement été confronté à la justice, que aussi.
Vous voulez dire personnellement ?
Personnellement, mais non, même politiquement.
Enfin, ça va venir, alors, ça va venir.
Ça peut venir. Vous savez bien qu'au fond, elle ne peut pas être parfaite, ça n'existe pas. Et qu'avoir des moyens de
tout
recours.
Tout à fait. Elle ne peut pas être parfaite, mais c'est aussi lui rendre service que d'essayer d'exiger qu'elle le soit, même si on sait très bien qu'on n'y arrivera jamais.
Allez, dans un instant, on change complètement de sujet. La dégressivité des allocations chômage, c'est plus tabou à gauche.
Marc-Olivier Fogiel. On refait le monde dans RTL Soir.
On fait le monde à 19h41 avec Clémentine Autain, Alain Duhamel, Jean-Christophe Buisson et Nicolas Domenac. Donc, vous l'avez entendu dans le journal tout à l'heure, à quelques jours de nouvelles négociations sur l'assurance chômage, le gouvernement met la pression sur les partenaires sociaux. Hier, la ministre du Travail, Myriam El Khomri, n'a pas écarté la piste d'allocation dégressive pour les chômeurs, comme dans les années 90, une idée généralement défendue par la droite. Alors, la dégressivité des indemnités pour les demandeurs d'emploi, bonne idée ou nouvelle dérive libérale du gouvernement sur les réseaux sociaux, Benoît?
Plutôt contre les internautes, car bien sûr, ce sont les chômeurs, la cause de tous les déficits, c'est bien connu, honte à la gauche et ses politiques, accuse Michel. Réduire les allocations chômage, c'est expliquer aux chômeurs qu'en vivant plus mal, ils trouveront un emploi que personne ne leur propose, assure Jack. Non, c'est aussi inciter au travail, lui répond Olivier. Le chômage est parfois un choix en France, c'est une réalité. Tout ce qui pousse à rechercher du boulot plutôt qu'à rester jouer à la PlayStation chez soi est une bonne idée, renchérit Bivi. Mais attaque France d'interpeller la ministre sur Twitter en lui rappelant que la dégressivité des allocations chômage mise en place en 1992 n'a jamais fait baisser le chômage. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches très riches. Il n'y a plus de tabou. Mais que reste-t-il de la gauche, se désole à la rap. Guiret remarque pour sa part que tu cotises à mort, ça c'est rigide. Par contre, tes droits après, ça c'est souple, on dirait. La proposition qui revient le plus souvent au final, c'est celle de Jocelyne. Ok pour la dégressivité des allocs chômage, si on indexe le revenu des ministres et des députés sur leurs résultats en termes de chômage, justement.
Alain Duhamel, dégressivité donc de ces allocations chômage, plus tabou à gauche.
Je trouve que quand on a un emploi stable et bien payé, c'est toujours un peu indécent de discuter du point de savoir si ceux qui sont au chômage doivent avoir des indemnités plus légères et plus brèves. Bon, cela posé, il n'y a pas que la droite qui a mis en place ce genre de système. C'est très exactement ce qu'a fait Schröder en Allemagne.
La droite, vous voulez dire donc ?
Schröder. Ah. Schröder, ça n'a été ni le plus faible, ni le plus inefficace des dirigeants. On sait que la France, alors c'est son paradoxe, mais c'est comme ça. On sait que la France a à la fois le système le plus protecteur d'Europe vis-à-vis des chômeurs et que les Français sont scandalisés par l'état de la protection sociale. Là, il y a quelque chose, moi, qui m'a toujours un peu dépassé, et je pense que c'en est une illustration.
Mais une fois que vous nous avez dit ça, vous ne nous avez pas dit votre opinion.
Mais si, je vous ai dit mon opinion. Je vous ai dit que quand on a un emploi qu'on aime, qui vous rend heureux...
M'expliquez pourquoi vous ne pouvez pas donner votre opinion.
On ne dit pas que les chômeurs soient moins payés et qu'ils le soient moins longtemps, parce que je trouve que ça ne se dit pas.
Clémentine, vous allez nous le dire.
Non, mais moi, je vais le dire calmement, mais je suis révoltée. Révoltée des pas qui sont faits jour après jour par ce gouvernement qui propose des mesures qui ne vont absolument pas résorber le chômage, mais appauvrir les chômeurs. Si les chômeurs ne retrouvent pas de travail, c'est parce qu'il y a un problème d'emploi dans ce pays. Alors, on nous dit on va mettre le paquet sur la formation. Moi, je suis pour que les chômeurs puissent se former. Mais ce n'est pas parce qu'ils se forment, je ne vais pas reprendre un débat qu'on a eu plusieurs fois ici, qu'ils trouvent un emploi. Il faut créer des emplois. Et le gouvernement échoue depuis 3 ans et demi dans cette voie. Je voudrais juste dire un mot sur un chiffre. Parce que ce que l'on oublie, c'est que ce qui a explosé pendant que le chômage a progressé, ce sont le montant des dividendes qui sont reversés aux actionnaires. Il y a une étude du cabinet RS qui est passée assez inaperçue, sauf dans les échos, ce qui est toujours très intéressant de lire les échos. Eh bien, en 2014, on a versé 5 fois plus de dividendes aux actionnaires que de primes aux salariés. Et on est dans une société qui favorise la rente du capital au détriment des salaires, au détriment de... Bon, voilà. Et j'aimerais que cette question soit mise sur la table, parce que c'est littéralement insupportable, finalement, de pénaliser toujours plus les chômeurs. Cette dégressivité, ça va les appauvrir. C'est ça, la réalité. Allez voir le film avec Sandrine Kiberlain, Encore heureux, et où justement, il s'agit d'un cadre. Et à un moment donné, il n'a plus de chômage. Ben, ça donne des choses ubuesques. Et moi, j'ai pas envie de cette
société. En ce qui concerne les dividendes, ça varie énormément d'une année à l'autre. Énormément, et notamment en France. Mais le problème français, qui est... pas le problème, un problème français directement lié à ce que vous venez de dire, un problème français, et que les Français ne veulent plus acheter d'actions. Les Français ne veulent plus aller en bourse. Vous savez que la majorité des engagements financiers en France sont désormais étrangers. Les Français ne veulent plus le système actions-dividendes parce qu'ils pensent que c'est trop aléatoire.
Enfin, en France...
Ben c'est vrai.
Ben oui, mais c'est quand même 46
les Français,
milliards.
Les Français détestent la bourse.
On va revenir à la dégressivité,
s'il vous plaît. 46 milliards qui ont été reversés pour les entreprises du CAC 40 l'an dernier, pour 23 milliards, soi-disant, pour 23 milliards sur l'assurance chômage, le manque à gagner. Parce que la dégressivité, elle est faite soi-disant pour payer le système.
Pour les actionnaires dont la majorité, y compris du CAC 40, sont étrangers. C'est-à-dire que ceux qui touchaient ça, c'était des fonds d'investissement.
Sur la dégressivité.
La dégressivité est un des outils avec d'autres, avec la durée de l'indemnisation chômage, avec le plafond, avec le montant. C'est un des outils sur lequel on peut jouer pour effectivement arriver à réduire le déficit de l'assurance chômage qui doit être de 30 milliards d'euros par an. Attendez, pardon. Quand vous dites tout à l'heure ça appauvrit les chômeurs, ça ne réduit pas le chômage. Alain Duhamel a cité l'exemple de l'Allemagne. Pardon, 2003, les lois Hartz sous Schröder.
Une catastrophe sociale.
Mais pas une catastrophe.
Attendez,
laissez-moi donner un chiffre aussi. 5,3 millions de chômeurs en 2003, avant ces lois Hartz. Aujourd'hui, il y a 3 millions de chômeurs en Allemagne. Alors évidemment, ils ont réduit la durée de l'indemnité chômage à un an. Ils ont fusionné l'aide sociale et les indemnisations longue durée.
Ils ont cassé le droit du travail.
Ils ont créé des mini-jobs que vous détestez.
Voilà, exactement.
Sûr. Sauf qu'aujourd'hui, le chômage en Allemagne, c'est 5% et nous, c'est le double.
Combien
donc,
de travailleurs pauvres en
Allemagne ? Ce sont les faits. Vous
pouvez
parler de
fiction,
vous pouvez parler de cinéma avec Sandrine Kiberlain ou avec Vincent Lindon. Moi, je vous oppose des faits, des réalités, des gens qui préfèrent travailler à des salaires moindre que d'être dans un système d'assistanat
Monsieur
permanent
Monsieur.
Et ensuite de ne plus rien avoir et de ne pas chercher à travailler.
Mais ceux qui aujourd'hui, ce sont les rentiers, première chose.
Oui, oui, oui.
Et deuxième chose, quand vous avez 10% de chômage...
C'est marrant quand vous parlez que des grands patrons, que des grandes entreprises. Oubliez, aujourd'hui, ce qui ne va pas, et ce pourquoi il faut réformer l'entre autres l'assurance chômage, c'est que les entrepreneurs ne peuvent plus entreprendre parce qu'ils sont écrasés par les charges, par les cotisations.
C'est
ça qu'il faut baisser aujourd'hui. Et c'est ça qui fera qu'on embauchera des gens qui sont aujourd'hui au chômage.
Non, ce qui fera qu'on embauchera des gens,
de dire un mot, c'est pas la peine de chercher en Allemagne. En France, on a testé cela, hein, la dégressivité.
Ça n'a pas marché.
Donc la France n'est pas l'Allemagne. Il faut quand même se mettre ça dans la tête. Il y a des raisons françaises, on les a pas explicitées, mais de fait, on a quand même essayé, je veux dire, pendant pas loin de 10 ans. Donc arrêtez de fantasmer sur cette idée qui est une idée du MEDEF qui revient en permanence et qui repose en grande partie sur une autre idée qui est odieuse, alors qu'on a entendu tout à l'heure citer, à savoir que chômeur, c'est un choix. Non, ça arrive, il y a des cas, bien évidemment, mais on fait des cas une généralisée et c'est insupportable, ça. Alors qu'on me dise par ailleurs que, effectivement, comme au Danemark, là, vous avez une dégressivité, sauf si, eh bien, vous avez un projet de vie, une formation costaude, et à ce moment-là, vous pouvez être chômeur un bon bout de temps. C'est ce que nous avait promis la gauche, et c'est pour ça que je ne suis pas content, moi, qu'on aille dans cette nouvelle voie. C'est que ça, c'était les engagements du départ. C'est qu'il y avait une formation. Contrairement à Clémentine, je pense que ça sert pour trouver de l'emploi. En échange d'une formation, on avait un chômage garanti pendant un bout de temps. Et on n'a pas ça.
Mais il reste à savoir si c'est un objectif réel du gouvernement ou si c'est un moyen de pression du gouvernement avant une négociation.
Ce qui voudrait dire
que ça ne se fera pas.
Voilà. On dit dans un instant un mot d'un sondage qui a beaucoup choqué hier dans le JDD.
Ouais.
RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde. Marc-Olivier Fauchière.
On refait donc le monde à 19h51 ce soir avec Alain Duhamel, Nicolas Domenac, Jean-Christophe Buisson et Clémentine Autain. C'est un sondage publié hier dans le JDD qui fait couler beaucoup d'encre. Vous-même, au cours de l'année, avez-vous personnellement rencontré des problèmes, insultes, agressions avec une ou plusieurs personnes issues des groupes suivants ? Et les réponses sont origine maghrébine, rome, confession musulmane, origine africaine, confession catholique, confession juive ou encore origine asiatique. Alors choqué ou pas par ce sondage, Jean-Christophe Buisson ?
Le problème, c'est que ce sondage a été fait, a été lancé par la Fondation du judaïsme français, avec Ipsos, chapeauté par, entre autres, Dominique Schnapper, la fille de Raymond Aron. Enfin, tout ça me semblait très cadré. Je ne peux pas imaginer une seconde... Je ne peux pas imaginer une seconde que le service d'information du gouvernement, le SIG, n'a pas validé, puisque c'est ce service-là qui valide toutes les et qui empêche éventuellement des choses de paraître. C'est un sondage qui a été fait il y a plus d'un an, qu'on n'a pas fait justement avant les régionales pour ne pas alimenter un éventuel brasier, et qui pose des questions, comme vous l'avez dit, qui paraissent effectivement choquantes. Mais si on s'arrête aux résultats, on s'aperçoit qu'il y avait peut-être une bonne raison de les poser ces questions. Parce que quand vous voyez qu'il y a plus d'un Français sur deux qui pense que les Juifs sont plus riches que la moyenne et d'autres choses comme ça, ça veut dire qu'on a vraiment encore beaucoup de préjugés en France. Et le mérite de ce sondage, c'est d'avoir mis en lumière tous les préjugés qui circulent dans la France de M. Hollande, apaisé, de 2016, qui sait ce qu'elle sait. C'est ça qui est frappant. Moi, c'est ça qui m'a le plus frappé.
C'est les réponses, c'est pas les questions, réponses, quoi, en fait, d'une certaine manière.
Et qui sont éclairantes.
Moi, je crois qu'il y a deux façons de le regarder. D'une part, les questions qui ont été sélectionnées, et en particulier les questions qui sont posées aux deux sous-échantillons juifs et musulmans, puisqu'il y a un échantillon global de toute la population et deux sous-échantillons spécifiques. Les questions qui sont posées aux sous-échantillons spécifiques juifs et musulmans sont véritablement pousse au crime, c'est-à-dire que les questions en réalité, ce sont les pires stéréotypes qui circulent. Alors évidemment, on arrive avec à des réponses hallucinantes.
C'est quoi les questions précises ?
Mais les questions précises, c'est chacun essayant en réalité de définir l'autre. On demande aux juifs de définir les musulmans et aux musulmans de définir les juifs. Mmh. Et puis on s'étonne qu'il y a quand même des bon, je veux dire, si on cherchait à donner une image caricaturale, eh ben c'est réussi. Mais ce qui me frappe le plus, c'est pour ça que je vous disais qu'il y a deux aspects, c'est sur l'échantillon global, parce que ça, c'est un échantillon normal qui correspond à la population et qui est représentatif et qui a sûrement été fait honnêtement. Et les réponses, alors là, pour le coup, j'allais dire de l'ensemble de la population, sont la photographie d'une société en crise, paranoïaque, défiante, ne croyant, n'ayant aucune confiance dans les autres, et honnêtement, c'est pas du tout l'idée que je me fais de la France. Bien, je suis pas en train de vous dire que la France n'est pas critique, qu'elle n'est pas inquiète, qu'elle n'est pas anxieuse.
Mais quand
je lis par exemple que les Français pensent qu'il y a 30% de musulmans en France, bon, alors qu'il y a 8% de ceux qui sont susceptibles d'être musulmans, dont 40% de pratiquants, en gros. Je veux dire, il y a des fantasmes quand même.
Nicolas, mais c'est intéressant quand même.
Pardon, mais il y a des questions quand même qui
c'est
aussi.
C'est intéressant à ceci près que si on ne montre que des fantasmes et rien d'autre, on peut toujours, avec n'importe qui, ne trouver que ce qui est négatif.
Nicolas, faut-il essayer de mesurer ce qui est positif ? Je oscillais entre la débilité, le pouce au crime, ça tient des deux, je trouve, quand même, même s'il y a des cautions apparemment scientifiques à ça. Parce que poser la question, soit avez-vous rencontré des problèmes avec des gens d'origine maghrébine, rome, de confession musulmane, juive, d'origine asiatique, c'est d'abord ce mélange est complètement dément. Et puis alors j'ai téléphoné à mon fils qui avait été agressé, je lui ai dit tu as été fait agresser par des gens d'origine asiatique, des maghrébins, de confession juive. Et alors il m'a éclaté de rire, il m'a dit tu crois que je leur ai demandé leur religion après qu'il m'ait mis des tartes. Voilà, bon, c'est aussi simple que ça, c'est dément. Mais alors pourquoi faire ça ? C'est ça que je me suis demandé, je veux dire, pourquoi il y a une pulsion communautariste de mettre associer les éléments de la société les uns contre les autres à travers ça qui est folle.
C'est une réalité que vous ne pouvez pas voir, donc vous ne supportez pas l'idée que les gens puissent penser ça.
Mais je suis sûre que vous êtes contre les statistiques ethniques à côté de ça. Je suis sûre que vous êtes contre. Et qu'un grand média français...
Il vaut mieux ne pas savoir que la moitié des Français ont des stéréotypes.
Je suis juste en train de vous dire.
Je suis juste en train de vous dire que
ce sondage est un pur scandale. D'ailleurs, moi, je ne rentre dans aucune case. Donc, sans doute, je ne dois.
Si, la population.
Et tous les sondages.
Mais non, je ne suis pas d'origine maghrébine. Je ne suis pas rome. Je ne suis pas de confession musulmane, d'origine africaine, de catholique, d'origine asiatique.
Il y a deux sous-échantillons.
Je me fiche des sous-échantillons.
Il y a la population globale. Vous êtes de la population globale.
Ah, moi, je suis de la population globale.
Vous n'êtes peut-être pas
globale.
Content,
eh ben
mais
non,
vous y êtes quand même.
Moi aussi, j'ai sans doute des traits caractéristiques. Mais je veux juste dire...
Il reste 30 secondes.
Sur les 30 secondes, que ce sondage est profondément dangereux parce que ça alimente la guerre des identités et les stéréotypes à l'encontre des Maghrébins et des musulmans.
Il est totalement unilatéral.
Bien sûr. Et donc, je pense que la responsabilité d'un grand média est engagée sur la publication d'une telle affaire et que ne rentre pas dans la case, comme le disait une des personnes qui tweetait, la catégorie gros con, et parfois on est agressé par des gros cons, tout simplement.
Et vous voulez pas qu'on montre le film salafiste aussi, par exemple, parce que ça peut donner des idées aux jeunes.
Ça n'a rien à voir.
Mais c'est le même type de raisonnement. Non, ça ne vous plaît pas, donc vous ne voulez pas le voir.
Absolument pas. Je suis pour le film salafiste, figurez-vous, mais il faudrait...
Il fallait venir la semaine dernière. Merci à tous les quatre. Merci donc à Alain Duhamel, à Nicolas Demenac, à Jean-Christophe Buisson et à Clémentine Autain.